Bon, je peux reprendre où j'en étais?
Non, tu peux reprendre où t'en étais.
Vas-y,
non, on s'en fout pas, on a des auditeurs.
Alors, tu parlais de Stumbleupon, le Deezer Like, le Dig Like.
Alors, je ne connais pas Dig, je sais, ça peut paraître con, mais je ne connais pas Dig.
Ben, Dig, c'est une application super utilisée en Hollande. Où ils s'en servent pour ne pas mourir noyé, je vais m'en servir pour Twitter.
En gros, touche pas à mon iPad. Le même a toujours raison, ou pas. Le truc, donc, c'est qu'en fait, imaginez que vous remplissiez un petit questionnaire rapide, un peu comme vous répondez à des milliers de sondages chaque jour. Oui, non, je sais, on répond jamais aux sondages, mais... Le truc, c'est qu'en fait, vous dites quels sont vos centres d'intérêt, etc. Et ça va vous proposer des pages que les internautes ont jugées intéressantes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous cochez « j'aime le Mac »,« j'aime le Linux »,« j'aime aussi tout ce qui est un peu hack, high-tech et low-tech », etc. Ensuite, après, vous avez un petit bouton. Tiens, pas mal, on a toujours raison, évidemment. Vous appuyez sur le petit bouton Stumble que vous avez, du coup, dans votre barre Google Chrome ou votre barre Firefox, ça marche aussi. Ou même via le proxy web, en fait. Ça vous permet donc d'avoir un truc qui vous est proposé comme ça au hasard et vous cliquez sur Stumble comme ça pendant des heures et vous tombez sur des trucs qui sont des fois du grand n'importe quoi, des fois des trucs super intéressants, des fois de la merde, et vous dites j'aime pas, et en fonction ça va s'affiner en fait. Et je peux vous dire que chez moi c'est très très fin, il y a quasiment plus que des trucs que j'aime bien. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est la chatroulette du web, sauf que il n'y a pas de bite à moins que vous le demandiez.
Ouais, mais attends, ce qui veut dire que les mecs, c'est un peu. Est-ce qu'ils font des pubs ou pas, StumbleUpon?
Comment ça?
Bah, c'est-à-dire, comment ils font pour gagner leur vie, StumbleUpon?
Je pense qu'il doit y avoir quelques liens sponsorisés.
Ouais, donc en fait, les liens sponsorisés sont toujours très 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 fins.
Ah, bah, du coup, moi, il y a que des trucs qui m'intéressent. Alors, c'est vrai que
même dans les liens sponsorisés.
Mais je sais pas si c'est des liens sponsorisés, je pense qu'il doit y en avoir dans l'eau, sinon je sais pas comment ça marche. Et arrêtez de jouer sur mes tics de langage, bande de cons! Le truc, c'est qu'en fait, effectivement, de temps en temps, ça m'envoie sur des sites d'entreprise. Alors, je suppose que soit c'est l'entreprise qui s'est mise à elle-même dans le Stumble Open en disant voilà, j'aime bien cette page, parce que si tu navigues correctement, c'est pas normalement, on va dire, tu peux dire tiens, cette page est super intéressante. Par exemple, tu tombes sur un article de Corben et tu te dis tiens, je le mettrais bien dans Stumble Open, ça me semble intéressant à partager
avec qui il est devenu,
sachant que ça, tu peux choisir quelle langue tu es capable de lire. Ce qui est pas mal quand même. Donc,
je peux poser une question. Oui. Je peux aller sur StumbleUpon là que je regarde vaguement.
Non, parce que ça met deux plombes, que mon Mac, c'est l'habitude. Mon Dell, je m'en sers pour l'instant pour regarder le chat, donc ce sera non.
Ah.
Voilà.
Alors. En plus, par principe, à chaque fois que tu demandes quelque chose, il faut répondre non.
Non, c'est pas ça. C'est que là, déjà, le chat, il plante une fois sur deux. On va pas trop pousser. Non, on va pas trop pousser mémé dans les orties.
Sérieux.
Voilà. Donc, si...
Ah, il y a Raoulito sur le chat.
Sans déconner, Raoulito, bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir. Bon, sinon, on devait durer jusqu'à 14h avec ton putain de sujet. C'est celui que t'as, les deux que t'as grillé en 40 minutes.
Il ne reste plus que 13 minutes à tenir.
Il ne reste plus que 13 minutes.
Sachant que...
Tu n'as pas quelqu'un qui est censé venir.
Sachant que iTruc et le Meb n'ont pas parlé sur ce sujet, pof non plus. Quelle application est-il sur ton iPhone?
Oui, je vais vous le montrer tout de suite.
Et je tiens à dire que le montrer à la cam, c'est la merde. Alors, mais vraiment la merde.
Quelles applications j'ai que je pourrais vous montrer? Vous avez parlé de Soundhood, j'imagine?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Bah, en gros, vous connaissez Stanza, c'est la même chose, mais en mieux. Voilà.
D'accord.
Sinon, qu'est-ce que
je peux... Stanza, c'est Shazam.
Alors, il va falloir expliquer à le mec qu'il faut qu'il arrête de débarrasser le studio.
C'est Shazam, et ben c'est en mieux. Vous connaissez peut-être Plants vs Zombies? Non,
oui.
Je ne sais pas.
Oui,
une espèce de tower defense, mais pas vraiment. Et vous, c'est des plantes qui se battent contre des...
C'est quoi un tower defense?
Alors, un tower defense, c'est un jeu de stratégie.
Attends, stop, pas les deux en même temps. J'ai posé ma question à Pof à la base.
C'est un jeu de stratégie où effectivement, tu as des vagues d'ennemis qui viennent et qui essayent d'aller d'un côté de l'écran vers l'autre, jusqu'à l'autre bord. Et toi, tu dois les en empêcher grâce à des tours qui tirent des projectiles le plus souvent. Sauf cas atypique. Voilà, et c'est le principe du tower defense. Et ben là, c'est la même chose, en fait, tu as les zombies qui arrivent d'un côté, et toi, tu as ta maison de l'autre, et il faut pas qu'ils aillent de l'autre côté, donc du coup, tu mets des plantes pour
les tourelles
qui tirent des...
D'accord.
Donc en fait, là, c'est pas du tower defense, c'est du flower defense.
Du flower defense.
C'est un peu ça, voilà.
Flower power, donc.
Si, sinon, écoutez, bah, je vois pas trop. Non, parce que j'ai pas vraiment d'application qui tue. Personne pourrait avoir.
N'a pas d'application qui tue. L'App Store n'a pas autorisé une application qui tue les gens, c'est étonnant.
Non, pas encore. Et mais c'est vrai que le Tower Defense sur iPad, ça doit être mieux du coup, je pense. Ça doit être plus, ah, t'as pas, plus de place.
C'est un genre de jeu qui me gave.
D'ailleurs, je crois que Killer App n'a jamais aussi bien porté son
nom. L'application qui tue, regarde, je l'ouvre et.
Voilà.
Alors, moi, je pourrais vous conseiller l'application Energy iPhone.
Ouh là là, gros dossier.
Et l'application précise.
Bonne idée. Ça, c'est une petite blague parce qu'en fait, on rigolait avec Phil sur l'application Energy iPhone qui est.
Mais en fait, Puff, il a un très gros micro, on l'entend de loin parce qu'il se met trop loin, tout simplement.
Quoi ?
Et que le micro a été orienté comme un connard parce que vous avez pas compris que les micros cadrent par le côté et non pas par le haut. Bande de cons.
Comme ça ?
Eh ben oui.
C'est mieux comme ça ?
Ben oui, sauf que tu tournes-le dans l'autre sens parce que le câble, sinon, il va poser problème.
Peut-être partout,
non, non. Alors je sais, non mais vous avez tellement joué avec les micros et tout que.
Question, on accueille l'invité avec le mousseau ou pas ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
On accueille l'invité avec le mousseau ou
pas ? Non, on accueille pas l'invité.
On accueille pas. D'ailleurs, Angelus, t'as le même problème toi avec ton micro.
Oui, mais moi on m'entend très bien.
Voilà.
Mais pourquoi ? D'où les voyageurs sur le côté ? Quelle est ta source ?
Ma source ?
C'est l'expérience.
Le Quacos ? Qui a dit hier, mais arrêtez de parler en face, ça cadre par le côté.
Vérifie ta source. Je demande à Docker, ce qui n'est plus dans le chat, de vérifier. Et comme il ne répond pas, nous avons raison.
Au pire, sinon, t'as plus de surface.
T'as d'autres apps
Il est encore là.
Quoi cause, tu m'as bien dit qu'il fallait parler sur le côté. Ce qui paraît très logique, en fait.
Ouais, ça a l'air d'un mieux passer sur le côté, effectivement, mais en quoi c'est logique ?
Parce que t'es plus proche aussi, parce qu'à mon avis, c'est au centre et dedans, t'as du. Enfin bref.
Oui. Voilà, eh bien, écoutez, moi, je vous parlerai bien de mobile RSS. Non, je déconne. Tu l'as fait tout à l'heure pendant 20 minutes.
T'as pas de killer app
Et sinon, les gens là sur les QuadTouch, vous avez quoi en stock ?
Je peux faire moi aussi.
Mais justement, les gens, c'est vous.
Alors, j'ai l'application Jamendo que j'utilise pas très souvent mais que je trouve assez intuitive.
Mais elle est toute pourrie et elle arrêtait pas de bugger sur iOS 4.
Alors, moi, je la trouve pas pourrie, je trouve qu'elle manque cruellement de fonctionnalités. C'est pas pareil. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, elle le fait bien, mais elle fait pas assez.
Elle fait que dalle.
C'est presque ça.
Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, elle reprend les principes de navigation du site Jamendo, c'est-à-dire les artistes les plus connus.
Déjà, le site de Jamendo est tout pourri au départ. Hein.
Bah voilà, donc après.
Il est pas top. On est d'accord.
Alors, ensuite,
Il y a Alice qui monte ses seins.
Ouais, Alice qui monte ses seins.
Alors, elle est juste en train de se lever.
Alors moi, il y a une application que j'aimais beaucoup sur l'iPod Nano et que je désespérais de ne pas trouver sur iPhone. C'est l'idée du quiz musical, c'est-à-dire il te passe une chanson et tu dois deviner la chanson que c'est. C'est tout con, mais ça passe très bien le temps.
Et maintenant, t'as 50 applications qui le font.
Et non, alors j'avais téléchargé une application qui était la seule gratuite. Et le problème, c'est que maintenant, elle bug. Donc dès que je la lance, elle s'éteint et je l'ai profond.
De toute façon, il n'y a rien qui marche sur l'iPod à l'EMEB depuis le début. Il montre à l'une, ça marche pas. Il fait ah non, mais l'autre elle bug. Il fallait pas qu'il passe sous iOS 4.
Non, je ne suis pas passé sur iOS 4.
Eh bien, reviens sur iOS 1 alors. Ça fera pas du mal.
Oui, mais je n'aurai pas d'application.
Oui, mais au moins ils planteront pas.
Alors, il y a un jeu qui s'appelle Gameplay que j'ai découvert, que je trouve sympa.
Mais c'est de la merde cette application. Je sais pas qui c'est qui a codé cette application de chiotte, mais,
attends, mais
ça peut
que
être pof.
Non, mais non, je suis pas sérieux.
Attends, mais il est sur son.
Ouais, je l'ai.
Putain, mais il l'a gardé, lui, le mazo. T'as vraiment des icônes à perdre.
Franchement, elle est pas non plus horrible, l'application qu'il a fait.
Moi, j'ai quitte à faire un jeu de memory, moi j'ai un super jeu de memory que je teste en ce moment, que j'ai récupéré gratos sur Bargain Bin. Putain, j'arriverai jamais à ce nom de merde. C'est Sound Memory. En fait, en gros, au lieu d'avoir des images, t'as des sons.
C'est pas mal.
Je trouvais ça, je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas 125 qui le fassent déjà, et il y a apparemment ils sont 3 ou 4.
Mais en même temps, en fait, le problème du sound memory, c'est que c'est pas évident. Le memory, en fait, au départ, c'est un jeu de société. C'est un jeu visuel. Et les jeux auditifs comme
eh bien, justement, ayant une mémoire visuelle, pour moi, le memory, c'est un peu trop facile dans l'ensemble. Vraiment.
Ah, Phil versus Stuff, un nouveau stage de Street Fighter, dira Willy.
C'est ça. Non mais sérieusement, pour moi, le memory en visuel, je le fais un peu trop rapidement. Et le truc avec le son, ça me demande plus de difficultés. Donc c'est plus sympa, si tu veux dire.
Mais tu peux tester aussi Pick and Play avec 25 cartes.
Eh bien, je l'ai déjà fait.
Génial.
Parce que je l'avais en bêta test.
Alors sinon, il y a l'application qui s'appelle iShoot, qui est une application payante.
Où tu prends des shooters de bière.
Voilà, en gros, tu prends des petits chars et tu balances des bombes sur les chars. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand t'as des gros missiles que tu peux balancer. c'est toujours très drôle.
Pardon.
Il y a aussi Wild West qui est un jeu de pinball qui est aussi assez sympa. Et alors, en tout cas, une app que je ne recommande surtout pas, c'est Things.
Things.
Ouais.
Things, c'est quoi Things?
Things, c'est une application qui permet...
Et il l'a encore. Mais non, parce que je ne recommande pas, mais il l'a.
Mais non, parce que je l'ai donc piraté.
Précipitez-vous dessus.
Non, parce qu'en fait, je trouve qu'elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est. En gros, je vais peut-être prendre la caméra pour la présenter.
Non, non, ça marche pas avec la caméra, je te jure, on a essayé
gros,
tout à l'heure.
C'est un classement de tâches.
De tâches. Mais... Donc en fait, t'as le meb en premier, ensuite t'as pof.
Ensuite t'as Phil.
Oui.
Non, mais les tâches genre. Enfin, c'est un peu un Remember the Milk, mais c'est le truc le plus simple qu'on puisse faire. Tu mets les tâches, tu. Alors,
sinon, moi j'ai les notes et l'agenda au choix. C'est-à-dire les notes pour quand je dois me rappeler d'une liste de courses. L'agenda pour quand je dois me rappeler de
tout ce que je me souviens pas.
C'est-à-dire que les notes, en gros, comme possibilité, tu as possibilité de mettre un titre, de mettre des détails et de les classer dans un projet. C'est tout ce que tu peux faire.
Ouais, d'accord. Moi je trouve que c'est un peu trop complet pour un truc.
Non, mais c'est pas ça, mais je trouve que c'est un peu usine à gaz pour pas grand chose. Moi généralement.
J'ai trouvé, moi c'est ça,
non, non, regarde. Tu peux mettre le titre de la tâche, éventuellement rajouter des notes si t'as envie, ouais. Et les mettre dans différentes catégories. Voilà, c'est pas
compliqué. Et ça te prévient quand tu dois faire ta tâche.
Oui, et ça peut te mettre aussi des heures si tu veux. Ouais. Et ça coûte, je crois, minimum 20 euros cette application.
Cette application de merde, elle coûte 20 euros.
Oui.
Pof, augmente le prix d'iLaunch, s'il te plaît.
Parce que je vais passer iLaunch à 88 euros.
Voilà, donc tu vas la mettre à 19 euros, iLaunch, et puis les gens auront l'impression que c'est une meilleure appli.
Alors sinon, il y a un petit
jeu. Ça marche comme ça en plus, psychologiquement, pour certains trucs. Merde Apple, par exemple.
Sinon, il y a un petit jeu que j'aime bien qui s'appelle ça.
Qu'est-ce qu'il raconte? Elle coûte 8 euros sur l'application.
En gros, t'es un
peu déjà
pro, mais. En gros, le jeu, c'est un petit esprit et tu te balades dans des décors. Alors bon, là en l'occurrence, je vais faire un petit nouveau jeu pour vous montrer, bon, le temps que ça charge. Donc ça, en fait, en gros, ça a des petits décors un peu manga. C'est très simpliste, mais à la fois, c'est assez efficace, je trouve. Bon, on va faire une nouvelle partie, hein. Hop, facile. Donc voilà, le temps que ça charge. Bon, comme c'est un iPod Touch première génération, ça met du temps à charger. Et je suis obligé,
conduis l'âme d'un mort, en fait, le gérer pour pas te prendre les escaliers, les bords, les plafonds, les trucs. Et de temps en temps, il y a des monstres qui veulent te bouffer.
Voilà, exactement.
Comme une espèce de Pac-Man. Non,
voilà, exactement.
C'est plus un espèce de.
Labyrinthe plus
Pac-Man. De Monkey Ball, machin, où au lieu de pas tomber, tu dois pas tomber.
Voilà, regarde.
D'accord.
Donc là, t'es dans la chambre. Donc là, la petite bouboule va se lever au-dessus du cadavre. Donc voilà. Et il faut éviter les monstres, n'est-ce pas? Hop là, parce qu'il y a les monstres qui arrivent.
C'est un graphisme un peu le château dans le ciel, voyage de Chihiro.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que
graphiquement, c'est très joli.
C'est un graphisme qui est un peu manga, qui est très simple. C'est-à-dire que c'est pas très interactif. C'est-à-dire que le mec, il a fait des dessins, mais ça marche bien. C'est sympa. C'est un petit jeu 3D, c'est intéressant. C'est pas très cher, je crois. Enfin, j'ai piraté, donc je peux pas dire le prix.
Je peux dire que je l'ai téléchargé, je l'ai pas testé encore.
Non, mais
elle était gratos.
Comme quoi, il y a des jeux qui. Soul est un bon jeu, très simple, mais sacrément efficace. Je suis au troisième niveau, j'ai toujours pas réussi à le passer pour vous dire que la durée de vie est assez longue.
Voilà. Sinon, t'as d'autres applis?
Moi j'en avais une, mais il me laisse pas parler.
Mais vas-y, pof.
Non, t'as pas compris. Le même, ta gueule, vas-y, pof.
Alors, moi, c'est un petit jeu en fait que j'ai acheté tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un mois ou deux, qui s'appelle Fair City. Et en fait, c'est.
Il faut faire une ville, Fair City.
Non, c'est pas du tout ça.
D'accord, en fait, c'est une ville qui a une mine. Une mine de fer, Fair City.
Non. F-A-R-E, tu le prononces comment?
F-A-R-E?
Ouais.
Fair.
Ben voilà, Fair City. Et donc en fait, tu gères une flotte de taxis.
Oui, mais attends, tu la gères comment en fait? Tu dois dire au taxi d'aller un point A à un point B, un point A à un point B, etc.
Voilà,
et
il faut pas qu'ils se percutent entre eux.
C'est très con. T'as déjà vu des taxis se percuter entre eux? Il y a des conducteurs quand même. C'est
oui,
pas des taxis automatiques.
Dans ce jeu, s'ils arrivent de l'un en face de l'autre, ils font.
Ils sont vraiment très cons.
Bah oui, mais sinon, il n'y a pas de but du jeu.
Il faut, à mon avis, non, mais le truc, c'est qu'il faut licencier des employés à ce niveau-là, hein, je pense. Hein. Mais bon, après, moi, je dis ça.
Mais quand tu sais que la licence de taxi coûte 180 000 euros.
Le but du jeu, en fait, c'est donc que tu appuies sur ton taxi, tu le glisses vers un client, tu glisses ton doigt vers un client, donc ça crée le chemin automatiquement. le taxi va voir le client, et une fois qu'il va voir le client, il y a un petit point qui t'indique la destination, et tu dois le faire aller à la destination. Et le truc, c'est que quand t'en as qu'un, il n'y a aucun intérêt.
Ça me rappelle un truc avec Air Traffic ou un truc comme ça.
Voilà, c'est exactement
voilà,
le même
où c'est les avions que tu dois faire atterrir. Il y en a un, tu peux lui dire, vas-y, fais une boucle, mais en même temps, il a un niveau d'essence limité, donc il ne faut pas faire
de boucle. Non, mais là, il n'y a pas de niveau d'essence, donc c'est bon. Mais et donc par contre tu peux le dire de s'arrêter pendant 5 secondes ton taxi.
Attends, mais je connaissais à peu près
mais
le
c'est
même
exactement
jeu, mais sur Windows 3.1.
C'est la même chose.
Exactement, c'est le Air Traffic mais version taxi.
Version taxi, d'accord.
Et c'est plutôt bien.
À quand le Air Traffic version Vélib?
Je ne sais pas.
Les bobos vont tous se jeter dessus.
Bah oui, en plus ça sera une application qui aura été développée écologiquement.
Oui. Et sur iPhone qui est le téléphone de
Google. Écologiquement, ça veut dire que le Mac qui a servi à coder l'application
a été purement recyclé ensuite à la fin du développement.
Notre Mac a été fait en bambou.
A été recyclé en Vélib.
C'est pas faux, c'est de la vie aussi.
Et il est maintenant 13h59, c'est l'heure de ne pas accueillir l'invité.
Bon, je vais
j'ai pris les feuilles.
Bravo.
Et c'est toujours. C'est tout.
Tu as l'air du numérique, achète
pas. Non mais ce qui est bien quand même.
Alors sauf si Philippe peut me laisser l'ordre.
Alors dans ce cas-là, je vais perdre le chat. Je suis désolé.
Et un
jour. Mais Toto, il va arriver, je vais lui téléphoner.
Il faut meubler. Non mais il appelle tout le monde Toto.
Sauf que pour moi, ça marche à peu près.
Ouais, non mais parce que tout à l'heure il fait oui, alors l'autre Toto Lastico là ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il dit Toto le terrifiant là? C'était quoi? C'est quoi que tu nous as balancé tout à l'heure?
Toto la terreur.
Ouais, voilà.
Non, par contre, l'invité, est-ce qu'on peut lui faire boire de la poire du capitaine?
Pour le tester, pour tester sa résistance.
Ça peut être une bonne idée, non?
Fatigué en attendant.
Sur la vie privée.
Fatigué, ah non, mais attends, mais il se prend pour qui, le petit con, balancer des ordres?
Je pense que je vais le fouetter.
Ah, je récupère mon câble jack. Parce que sinon, ça fouette moins fort.
Ah, on aurait
fait
un
nouveau. Je
voulais
savoir à quelle heure vous arrivez.
Tandis que l'invité, il le
voit. C'est Toto.
Oui, c'est
sinon, je peux passer à des trucs intéressants et mettre un jingle parce qu'on vient de passer l'heure.
Oui,
c'est
Toto. Eh ben, mettons un jingle.
Ah oui, merde, c'est moi qui l'ai jingle. Non, alors, vous, voilà, vous arrivez. Je mets quoi? Je mets un jingle 28 sur 24 non, je sais pas.
Eh bien non, tu mets un jingle des balles.
Et pendant que j'anime un live de 28h, je fais du SAV pour iLaunch.
Il y a bien entendu. Et les gens s'en foutent.
Donc, que entre toi qui parle et le net qui fait du beau temps, donc là ça va être logiquement un débat d'octet, mais simplement la personne qui devait s'en occuper n'est pas là.
Mais on va quand même mettre le débat d'octet, alors attention, c'est parti. Et je crois que j'ai pas le
signal.
Oui, mauvaise nouvelle, il est là dans 3 quarts d'heure.
Bonne nouvelle, il est à Bastille.
C'est loin.
C'est pas loin du tout, c'est à.
Alors.
Par contre, il semblerait. Le chronique tech. Pof.
Je sais pas où ils sont, les jingles, tu demandes. Pof, putain, je vais
répondre. Alors.
Absolument pas, qui a dit que je devais m'occuper des jingles? Moi, vous m'avez donné une clé, vous m'avez dit copie ce qu'il y a sur la clé, c'est tout ce que j'ai fait. Mais je ne lisais pas les jingles, moi, au départ, sur mon Mac, ni chez toi, je ne sais pas où c'est.
Tu peux me récupérer la clé qui est à côté, s'il te plaît. Vie privée 28 27 comment
la clé qui est à côté.
Mais il est incroyable ce mec, il a tous les jingles sur son ordi, il arrive chez moi, il fait bon je vais me coucher, occupe-toi de tout.
Non, c'est pas cool comme attitude de pas mettre les jingles. Ça il faut que je te pète la gueule normalement les jingles de celui-là. Qu'est-ce qu'il fait lui?
Ok. Non mais en plus on me traite de feignant. Mais je bosse, je fais du SAV à iLaunch là. c'est n'importe quoi de mettre les applications gratuites. Il y a trop de demandes après.
Pourquoi je peux pas déposer le...
J'en sais rien.
Parce qu'en fait ça se trouve c'est qui est déjà...
Non.
Non. Putain mais c'est quoi t'as on est en prepare pourtant.
Bah oui.
Bon, alors vous êtes 39, merci.
Non, mais des fois, rappelle-toi que Vercaster, des fois, il y a des trucs qui n'apparaissent pas.
Si ça se trouve, il refuse que ce soit depuis un mois
et demi. Ça serait étrange, quand même.
Il n'a pas les éléments requis pour pouvoir lire cette clé.
Et en plus, le truc, c'est que le Dell est connecté, mais on ne voit pas.
La radio qui lâche l'émission, ça veut dire quoi?
C'est un peu la merde, surtout.
Mais good. C'est un peu la merde, effectivement, je confirme, ça pue le...
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, merde. non, pas merde, c'est oui.
Et qu'il fallait répondre.
Pas merde. Si je peux t'aider, hein.
Quoi?
Si je peux t'aider.
Bah là tout de suite, pas vraiment.
Ah merde, pas de soucis. Il n'y a pas
énormément de un jingle.
Quoi? Alors, du mais coup, oui, il nous manque toujours le jingle parce que en fait.
C'est pas un des débats d'octets que je vois là. Si, si, ici, là, c'est, des, là, débats, c'est des débats d'experts.
Oui, alors il va falloir expliquer à vous-même deux choses. On n'éclate pas nos pixels en appuyant dessus. Et deux, je suis au courant de où ils sont sur mon bureau. C'est pour ça que je viens.
Et je vous redonne des nouvelles de Franck, car c'est encore la pagaille, c'est encore la merde. Il nous manque encore un jiggle. Il semble en effet que ce soit, eh bien, encore un problème, oui, de jingle, décidément, nos services de renseignement ont bien des problèmes à récolter les jingles qui nous viennent de derrière les lignes. Le réapprovisionnement en jingle du front n'est pas notre point fort.
On fera sans le truc, je ferai attention.
Bien, à première vue, nous avons décidé, eh bien, d'à la guerre comme à la guerre, de faire sans le jingle, car nous ne parvenons pas à le rapatrier. Les services sanitaires sont quand même sur le coup, mais cela ne semble pas possible. Alors, eh bien, nous allons faire sans les renforts, eh bien, qui devaient arriver, ne sont arrivés. Nous entendons également, eh bien, je vous dis, du sang neuf, un peu une nouvelle recrue qui vient de la Bastille. Nous avons réussi à le libérer sur lettre de cachet. Nous avons pris la prison d'assaut et nous avons pu le libérer pour qu'il vienne partager avec nous. Merci sur le sujet de la popphosphère, qui est en fait un débat d'octet, qui est en fait un débat d'octet, et qui est sur le thème de je ne sais plus, mais ce sera sûrement très intéressant à n'en point douter. Alors, eh bien, je peux vous dire aussi également que là où il faudra particulièrement écouter ce 28 sur 29, c'est de 18h.
Ce 28 sur 29.
C'est pareil. 24,
sur 30, sur 42, sur 56.
C'est de 18h à 19h, parce que c'est là où, eh bien, j'aurai. Intervient pour la seconde fois, j'interviens de nouveau. Alors, si vous voulez faire une sieste entre temps, ne le faites pas non plus, mais vous pouvez écouter d'une oreille discrète, ça fait toujours des auditeurs. Et alors, que vous dire de plus, et eh bien, si ce n'est que il me faut bien sûr, à chaque fois que je prends cette voix de merde, et eh bien sûr, meubler. Sinon, je peux vous dire que il commence un peu à faire faim. Je suis le seul, vous l'avez pu constater, vous qui êtes en live, les amis. De toute façon, il n'y a que des gens live, vu que ce n'est normalement pas enregistré. Eh bien, je suis le seul à ne pas avoir encore quitté les abris, hein, car il faut bien que quelqu'un tienne le front, que quelqu'un fasse rempart de son corps. Et d'ailleurs, si vous voulez tester mon rempart, c'est quand vous voulez. Alors, donc, je vous dirai. Eh bien, aussi que je me sens de plus en plus cerné, je ne comprends pas, on vient me tripatouiller dans le dos, on vient m'enfoncer des clés par derrière, je ne sais pas ce qui se passe. Et alors, je crois qu'on tente, eh bien, on va un peu live-footer comme le Jewish Hospital, eh bien, on va essayer de tenter une nouvelle opération. Je vous la live-tweet, je vous la rapporte en direct, hein, c'est des choix du point du reporter de guerre. C'est, eh bien, allons voir si jamais ça marche. À première vue, ça ne va pas marcher. Il semblerait que la opération, oui, car il y a un tâté entre là et opération, eh bien, soit un échec cuisant, hein. Pour à peu près les mêmes raisons qu'il y a tout à l'heure, mais je ne sais absolument pas pourquoi, car il semblerait qu'on ne veut pas prendre les fichiers qui soient sur la clé, pardon, le fouet. Alors effectivement, là je peux vous tweeter indirectement, hein, je ne le tweete pas, mais je le reporte que l'invité qui devait arriver est en train d'arriver. Il redescend les escaliers, pantalon beige, toque noir, il est là, il serre la main à tous les maréchaux de Pod Radio, c'est magnifique. Il me fait un nouveau signe qui, dans son pays, doit être un signe de bienvenue, c'est magnifique. Hein, en effet, et pendant ce temps, on me gratte le clavier, je ne sais pas ce qui se passe, on essaye de rentrer des codes, hein, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le navarro-malgache est une langue assez difficile à décoder. Et eh bien, il semblerait que nous fassions, comme je vous l'avais dit, sans jingle, je vous l'avais annoncé. Sachez-le, je suis un prophète. Alors, eh bien, pour l'instant, je vais tout de suite, sans jingle, laisser ma place pour aller manger. Et je vais également, eh bien, laisser la place à le même. Je crois qu'il va, eh bien, enchaîner tout de suite sur, cette, sur ce débat d'experts qui est en fait un débat docté, qui est en fait un débat docté. Alors c'est parti, et tout de suite à vous, après le jingle, à vous le RTF, à vous les studios.
Donc bonjour, bonjour, je vais me refaire. Torel, excusez-moi.
Je vais laisser la place à l'invité, ça marche
bien.
Allez-y, asseyez-vous. Hein.
Si vous voulez, on peut même déboucher une ou deux bouteilles de coca ou de. Il y a même de l'alcool. Il y a même de l'alcool de poire de 1985 qui était importé par une certaine personne.
Un petit peu de merde. C'est juste chaud de la nuit. Là.
Non, alors.
Chaud de la matinée à la limite.
Chaud de la matinée, ouais, ça fait quand même depuis 6 heures qu'on est sur le pont. Donc,
je suis désolé, je te dérange peut-être.
Non, mais sincèrement, ça va, là, on arrive quand même à tenir, là, je pense.
Ça dure combien de temps, votre truc, là ?
Ça dure jusqu'à demain, 10h. Super. Donc là, les gens que vous avez peut-être pu voir, la personne là, qui tient le cybercafé, donc, s'occupe d'un podcast qui s'appelle L'apéro du Capitaine. Mm-hmm. Et donc, lui, il va s'occuper de la tranche minuit 6h. Donc voilà, donc c'est donc voilà. Donc j'attends juste qu'on ait le jingle pour pouvoir commencer.
Normalement ça devrait être bon.
Normalement ça devrait être bon. Ok.
Non, c'était juste en train de...
Est-ce qu'il y a le chat là en face?
Où ça?
Sur l'ordi.
Non, je peux le mettre.
Non, c'est bon, je vais le mettre. Donc c'est bon, si vous avez vraiment une question, mettez-vous à l'aise. Ok, donc.
Monsieur, en face de moi.
Comment ?
Pardon ? Et vous, on va parler ensemble, non ?
Oui, on va parler, oui.
Oui, oui. Vous pouvez parler. Mais...
C'est pas interdit, interdit d'antenne.
Non, non.
Alors, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs les autres, pof ?
Il y en a qui fument, qui aillent manger.
Ok. Ah, c'est la première fois qu'Angelus quitte la cave depuis 6 heures ce matin. Donc voilà, pour le Tiny, vous avez donc l'invité dans la caméra du Tiny Chat. Donc si vous êtes sur live.podradio.fr, vous l'avez en gros plan. J'ai du retour, c'est cool. Donc on va commencer dans quelques secondes, le temps que j'ai du casque et que je mette mes notes.
Ouais, bah quand tu veux, je peux lancer le jingle. Hein.
Ok, quand tu veux.
Bah maintenant. Non,
salut à tous et bienvenue dans ce débat d'octet de 14h sur la vie privée. Donc on va parler justement de la vie privée pendant ces deux prochaines heures et j'ai un problème de faux contact avec mon casque. Bienvenue donc dans ce 28 sur 24 et 14h. En décembre dernier, Eric Schmidt, le PDG de Google, était interviewé par la chaîne américaine NBC. Et pof, tu fais beaucoup de bruit. La journaliste souleva alors un sujet assez sensible qui est celui de la vie privée. En effet, Google était et est toujours attaqué par pas mal d'internautes et d'associations à propos de l'opacité du traitement des données confiées par les internautes à Google. On sait que l'entreprise californienne récolte les données, pour être plus précis, toutes les données qu'elle peut récolter via ses services tels que Gmail, Google Docs, etc. et les utilise pour mieux cibler les publicités. Mais c'est pas tout, puisque la journaliste soulevait le fait que les données des membres de Google pouvaient être vues par les instances gouvernementales si elle en faisait la demande, dans le cadre d'une enquête antiterroriste par exemple. À cette question, Eric Schmidt, le PDG de Google, répondit, le plus naturellement du monde, cette petite phrase qui fait le tour du web, « Si vous faites quelque chose et que vous ne voulez que personne ne le sache, peut-être devriez-vous déjà commencer par ne pas le faire. » J'ai choisi cette citation qui fit polémique parce qu'elle aborde plusieurs sujets. Les enquêtes policières qui utilisent des données privées trouvées sur Internet, mais aussi la récolte des données personnelles par les sites tels que Google et Facebook et ce qu'elles en font. On parlera dans ce débat d'octet de tous ces sujets bien sûr, mais aussi de surveillance privée, d'anonymat, de surveillance dans les entreprises, de frontières entre vie privée et vie publique si on peut encore parler de vie privée et d'autres choses encore. Et pour en parler aujourd'hui, on a un invité spécial, Jérôme Torel des Big Brother Awards. Bonjour.
Salut.
Bonsoir.
Ouais, bonjour.
Ouais. Ouais, bonjour encore là. On n'est pas.
Un peu nuit là, mais.
Donc Big Brother Awards qui sont, on peut dire, un peu des sortes de prix qui sont remis. Enfin, pas exactement, puisque en fait vous avez deux dénominations, les Big Brother Awards ou les Orwell Awards, qui sont remis chaque année, donc aux. Disons aux organismes, aux personnes qui bafouent le plus la vie privée des citoyens.
C'est pas mal résumé, ouais, c'est un peu ça. C'est à la fois une. Une cérémonie un peu gaguesque, hein, où on est tous déguisés, mais derrière il y a quand même 3 mois de préparation, des dossiers très sérieux, rédigés, et donc une base, un fond qui est complètement réel et vérifié, et puis à côté du théâtre. Oui. pour effectivement symboliquement remettre des trophées qui ressemblent un petit peu à des cadeaux empoisonnés.
Est-ce qu'il y a des vainqueurs qui sont venus déjà au Big Brother Awards?
Non.
Personne?
On est très déçus.
Parce que il y a certains prix comme les Cranberry Awards, si je ne me trompe pas, qui sont remis tous les ans à la veille des Oscars, et il y avait quelques gagnants qui sont quand même venus.
Oui, mais là, quand on reste dans le monde de la culture, savoir si un film mérite ou pas un prix, c'est hyper subjectif, quoi. Oui. Donc,
alors que là, c'est plus.
Non, mais bon, il y a même des comédiens qui, effectivement, sont.
C'est possible de parler un peu plus près.
Sont nominés au Gérard, le genre de la télévision. En France, c'est comme une cérémonie un petit peu gaguesque sur le même type. Alors, on peut imaginer que des comédiens aient intérêt à se montrer, à dire oui, que j'ai fait une connerie. Mais quand on parle de ministres, d'entreprises, d'institutions qui, eux, se cachent toujours derrière leur grandeur, leur histoire et leur secret industriel, effectivement, on comprend un peu mieux pourquoi ils n'acceptent pas de jouer le jeu de ce gag-là, parce que dans le fond, nous, on ne rigole pas du tout.
Oui, c'est sûr que.
On présente ça de manière. On essaye d'être drôle pour pas être lourdingue, mais en même temps le fond de notre discours est très sérieux. Et c'est ce fond là qui les emmerde, c'est pas le fait de venir nous voir.
C'est assez violent derrière l'apparence un peu gaguesque.
Oui, voilà, c'est à dire qu'une fois qu'on a rigolé, finalement on réfléchit devant, on se dit effectivement est-ce que c'est si drôle que ça. Ben non, parce que l'entreprise qu'on a primée, le ministre qui s'est exprimé, qui s'est fait rétamer, quelque part, il n'est pas fier de ce qu'il a dit. Ou alors, effectivement, oui, certains sont très fiers parce que certains sont là pour avoir des prix chez nous. Ouais. Certains font le travail, je dirais, font de la retape. Ils sont là justement pour être nominés, pour faire du buzz, pour occuper un petit peu le terrain. Donc ça aussi, on est conscient que dans certains cas, finalement, il y a des...
Donc vous préférez pas les récompenser
Il y a certaines personnes comme le président Sarkozy, même avant qu'il soit élu. Il a toujours fait pour être dans la liste, toujours fait pour en faire plus. Aujourd'hui, il a des lieutenants, il a Estrosi, il a Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, il a plein de petits seconds couteaux, des députés, des sénateurs qui sont là pour porter sa voix, pour tester ses idées totalitaires, il faut le dire. Et avant, c'est lui qui faisait ça. Avant, il était petit député, c'était un petit maire. Et
depuis qu'il a fait le dur, il a un poste plus important.
Voilà, et puis c'est vrai que depuis 2002, je crois, la première fois, il a été exclu par le jury en disant « mais on va pas quand même donner un prix à Sarkozy, c'est tellement énorme, tellement lui, il fait tout pour l'avoir, que oui, donc alors, effectivement, là aussi, on rentre dans le théâtre, parce que exclure quelqu'un d'une compétition, dans un truc comme le nôtre, on reste dans le gag. Ouais. Et c'est aussi pour qu'on en parle, évidemment, on n'est pas dupes. On fait pas ça aussi pour, on s'estime pas... Dieu le Père, en disant, voilà, on décide que monsieur machin ne sera pas dans la compétition.
D'ailleurs, en faisant le lien entre le fait que les invités réagissaient, ce que vous disiez, en disant que vous n'êtes pas Dieu le Père et que vous n'êtes pas forcément l'objectivité, j'ai lu quand même la réaction de Alex Turc, qui est l'actuel président de la CNIL, par rapport à son prix spécial exceptionnel des Big Brother Awards 2010, où en gros vous lui avez...
prix spécial du jury.
Oui, c'était... Donc pour sa langue de bois et son double jeu...
Moi, je suis pas dans le jury, en même temps.
Vous n'êtes pas dans le jury, vous faites, faites la préparation.
Moi, je suis parti de l'équipe chez Vie Ouvrière, c'est-à-dire que je prépare les dossiers. C'est moi qui instruis, je ne suis pas juge.
D'accord. Ouais. Les jurys, c'est généralement composé de qui?
C'est un peu tout. Généralement, c'est des sociologues. On ne tire pas au sort. Hein. Ce n'est pas comme un juré populaire.
Ouais.
Hein.
Non, je comprends.
Ouais. C'est orienté, évidemment. C'est orienté, tout orienté.
Bah, de toute façon...
On n'est pas objectif du tout. Donc, que ceux qui pensent qu'on joue à l'objectivité, ils n'ont rien compris.
Est-ce que vous...
Les jurés, pour finir la question, ça peut être des journalistes, assez rarement d'ailleurs, parce qu'on est plutôt contre ça... Parce que le journaliste en tant que tel, il représente toujours une rédaction. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui puisse représenter vraiment quelqu'un, un courant de pensée. Il y a des sociologues, des militants, des gens qui sont proches de nos idées par les actions qu'ils mènent. Associations comme Souriez, vous êtes filmé, par exemple. Et il y a aussi des fois des réalisateurs, des artistes, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient auteurs, qui peuvent aussi nous rejoindre. Généralement, c'est des gens toute génération. Des fois, il y a eu des lycéens. Il y a eu Maurice Rachfus, qui est un ancien historien, un vieux résistant. C'est des gens qui sont effectivement convaincus, comme nous, qu'il y a un gros problème, mais qui, face à des choix, dans chaque catégorie, il y a 4 ou 5 candidats. Donc forcément, il faut aussi qu'ils fassent des choix politiques sur qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, Est-ce qu'on zoom sur quelqu'un qu'on connaît déjà, ou est-ce qu'au contraire on sort de l'ombre un candidat qui est peu connu pour mettre la lumière sur lui? C'est un peu ce qui se passe au sein du jury. Mais c'est vrai que moi je n'en fais pas partie parce que j'organise un peu tout. On est une dizaine, hein, on va faire ça tous les ans. Et on peut pas, même si on oriente, forcément on oriente, hein, y a pas de lézard, mais on peut pas non plus être juge et parti. Voilà, ouais. Si on, la frontière on la met là. Donc, le jury, c'est vraiment les gens qui ne connaissent pas la sélection avant la réunion. C'est une vraie réunion physique où les gens se réunissent dans un restaurant. Donc on fait comme le prix Goncourt. Hein. Comme le prix Goncourt, qu'est-ce que je raconte non, mais c'est le même principe en fait. Oui, c'est vrai que les gens délibèrent, il y a une vraie délibération. C'est ça que je...
Et ça se fait en une fois ou...
C'est une seule fois. Au début, on acceptait les votes à distance, mais on s'est rendu compte que c'était, ça n'avait aucun intérêt et qu'il fallait que les gens... Si les gens voulaient être dans le jury des Big Brother Awards, il fallait qu'ils libèrent une journée de leur emploi du temps. Parce que certaines personnes étaient d'accord pour le faire, pour apparaître dans la liste, mais pour se bouger le cul, rien.
D'ailleurs, donc, c'est bizarre, je n'ai pas vu la liste du jury.
Si, elle doit être dans le communiqué. Il a annoncé dès qu'on annonce tous les ans la sélection, c'est-à-dire les candidats, 10 jours avant la cérémonie, en gros, on annonce toujours le nom du jury. Donc c'est sur notre site, tout est public, dans les communiqués, bigbrotherawards.eu.org. Voilà.
Tout à l'heure, j'avais parlé de la phrase d'Eric Schmidt qui disait, en gros, si vous avez quelque chose à vous reprocher, n'utilisez pas Google parce que vous savez que...
Ben, Eric Schmidt, il a rien inventé et il représente un petit peu la minorité silencieuse, mais dans toutes les démocraties occidentales, c'est comme ça qu'on essaie d'éteindre les critiques, c'est justement de dire, les Anglais disent, pas vu, pas pris, quoi. J'ai rien à cacher, donc pourquoi j'aurais quelque chose à me reprocher, quoi.
Ah, mais qu'est-ce que vous répondez spécialement à cet argument?
Imaginons,
vous auriez été la journaliste, qu'est-ce que vous lui auriez répondu à la place?
Ben pourquoi surveiller tout le monde si les gens sont innocents? Pourquoi finalement vouloir absolument culpabiliser les gens qui décemment n'ont rien à se reprocher, certes, mais ont réellement des volontés d'apaiser une décence ordinaire, comme dit Orwell. Orwell, un terme qui est très important dans son discours politique, c'est la common decency. Cette décence ordinaire, ça ne fait pas de vous un criminel, mais un jour ou l'autre, vous aurez besoin d'aller dans une manif, de faire opposition à votre patron qui veut vous virer des gens et vous estimez ça injuste. Vous vous mettrez toujours, quoi qu'il arrive, dans une situation d'opposition à une autorité quelconque. Donc ça, c'est la vie ordinaire. Et c'est personne peut dire je suis honnête et je le resterai. Ça, c'est quelque part, c'est une visée totalitaire aussi, parce qu'il n'y a que les états totalitaires qui aimeraient bien que les gens restent honnêtes toute leur vie.
Mais est-ce qu'on peut parler comme là dans la revue, là, je précise là, les deux sources que j'avais. Oui,
Philippe. J'ai des questions sur le chat et une question qui est peut-être très intéressante à être posée dès le début du débat en fait. Ouais. C'est une question donc de Lionel M qui dit donc ça veut dire. Attends, j'avais une question avant. Voilà, aujourd'hui avec les Facebook, etc. Par contre, dans le chat, si vous pouvez éviter de taper, ça m'éviterait que ça redescende tout en bas. Aujourd'hui avec les Facebook, les blogs, les Twitter, est-ce qu'on peut parler de vie privée? Ça veut dire quoi la vie privée aujourd'hui, et une photo de moi, est-ce que c'est ma vie privée ou pas? Je pense que c'est... Les réseaux sociaux sera peut-être une question à laquelle on répondra tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est la définition de la vie privée, justement?
C'est ce qui est pas plausique.
Oui.
Donc un blog, c'est pas privé. Un blog, ça, vous pouvez parler de votre vie privée sur votre blog, mais ce qui apparaît sur votre blog, c'est avant tout de la vie publique, ce que vous exprimez. Vous prenez la parole, vous dites merde, chiotte, j'aime pas.
Ça c'est Facebook, ça. Pas surtout j'aime.
N'importe quoi, vous avez un blog, vous pouvez dire merde.
Oui,
aussi,
effectivement.
Donc, s'il n'y a pas de distinction entre public et privé, il n'y a pas de vie tout court. Il faut arrêter de déconner. Donc les gens qui veulent absolument que vous soyez convaincus qu'il n'y ait plus de vie privée, c'est que déjà ils ne veulent plus que vous exprimiez librement, parce que ça risque d'emmerder leurs intérêts commerciaux ou politiques. Mais c'est les gens qui veulent vous laisser dans un petit case, quoi. Je veux dire, la vie privée, elle existe parce qu'il y a une vie publique. Et chacun a... Certains ont envie de se balader à poil dans la rue. Je pense que la décence ordinaire fait que les gens n'ont pas envie de se balader à poil dans la rue. Donc, il faut leur apprendre à s'exprimer publiquement sur Internet sans se mettre à poil. Voilà. Effectivement, il y a des cas où on tague des photos, on se fait taguer sur des photos.
Et ça, c'est le genre de petit
boulot,
par exemple.
Ça, c'est un aspect privé de la vie publique. Et les gens, peut-être des fois n'osent pas dire non. Il y a une application sur Facebook, j'utilise tout le temps, c'est Don't Tag Me.
fuck, tu m'as tagué, j'apparais dans quelle photo, dans quel contexte? Et ben non, ben je veux pas, et ben je dis non et je me détaque quoi. Donc même Facebook, il a
pas vu. Faudrait que je l'apprenne cette application.
Non mais c'est vrai, mais enfin, je veux dire, des fois ça peut être utile de se faire taguer, des fois même on peut nous taguer sur une photo, une image, une affiche, sans aucune photo de personne. Ça peut être un clin d'œil de dire voilà, je t'ai tagué dans une photo mais tu y es pas. Tu vois, ouais. Donc ça peut être aussi, ça, c'est au niveau artistique, c'est intéressant.
Est-ce que on peut parler de plusieurs niveaux de vie privée? Parce que dans la revue Jean-Pierre Winter, il y avait une interview d'un psychanalyste qui disait en gros, pour moi la vie privée c'est la vie qu'une caméra ne peut pas surveiller, ce qui est la vie psychique. Est-ce qu'on peut pas parler justement de plusieurs niveaux de vie privée qui est, on ne partage pas les mêmes choses avec tout le monde, c'est-à-dire que je vais probablement partager des choses avec eux, que des choses que je vais partager avec ma famille, mais que je vais pas partager avec eux, et à l'inverse, il y a des choses que je vais partager avec eux, mais pas avec ma famille. Donc vous voyez, est-ce qu'on peut pas parler justement de, est-ce que la définition de vie privée n'est pas plus floue que ça?
Mais bien sûr qu'elle est floue, et pourquoi elle serait plus floue sur Internet, ou moins floue sur Internet, que dans la rue?
Ah mais c'est complètement ce que je dis.
L'histoire du, comme vous dites, vous sortez dans la rue à poil, bah, vous pouvez sortir à poil, à moitié à poil, un petit peu à poil, ou pas du tout à poil.
Ou la nuit, à poil dans un camp nudiste, ou à poil en plein milieu de Paris.
Voilà, donc, je veux dire,
le contexte est important.
La nuance et l'humanité. Donc on ne va pas chercher sur Internet à enlever la nuance. Ou alors on est des robots, quoi. Alors si on reste des hommes, on reste nuancé. Et donc sur le net ou ailleurs.
71% des candidatures à un recrutement aux États-Unis, donc 71% des candidatures à un recrutement aux États-Unis sont écartées en raison d'informations trouvées sur le net, par exemple des photos de murs sur Facebook. La statistique est énorme.
Oui, quand même.
71% des candidatures à un recrutement, c'est pas 71% des recalements, 71% des candidatures.
Mais qui a fait ce sondage? Mais qui a ces infos là? Qui a le pouvoir de faire un sondage?
J'avais assez.
Ça a dû être tiré au dé, ça.
Non,
je
mais
pense.
C'est n'importe quoi.
C'est ça, on est tombé sur 71. Bah, 69, tout le monde aurait su que c'était un fake. Hein. C'est comme 51, il y a des chiffres comme ça, ça passe pas.
42.
Mais 42 aussi, effectivement.
Non, je sais pas, tu commences ça, mais j'en ai rien à branler de ça, franchement.
Non, mais bref. Il y a
beaucoup de gens qui veulent justement faire peur aux gens, mais restez dans les clous, les gars. Non, non. Dites pas des conneries sur Facebook. C'est ça, ça veut dire ça.
Non, mais justement.
Ça sert à ça, ces sondages. Ça sert pas à informer les entreprises qui ont embauché des gens. Ça sert à faire peur aux gens, encore une fois. Faites gaffe, les gars, dites pas les conneries. Allez-y, dites des conneries et prenez-vous un flanc, un vent, faites-vous jeter d'une boîte et après vous apprendrez qu'est-ce que tu racontes. Et après, tu apprendras à mentir aussi. Tu apprendras à dire plein de trucs vachement bien sur toi, que ce sera quand même des mensonges. Donc il y aura plein de gens qui t'embaucheront et diront putain, monsieur Thoray, il est super, sauf que Thoray, il a menti. Voilà. Et quand il ment, et ben, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et ben, l'employeur il est baisé. Voilà. Et ben, apprenez à mentir. Voilà, donc, apprenez à avoir deux identités. Des trucs, des faux comptes.
Et bah c'est pour ça qu'on a tous des pseudos.
Bah oui, bien sûr, les pseudos c'est vachement utile. Et un jour, quand si vous avez envie de dire votre nom, bah dites-le aussi. Je veux dire, il n'y a pas peur de le faire. Si ça peut être utile de ne pas dire son vrai nom. Voilà,
donc vous pensez que la meilleure solution pour protéger sa vie privée, c'est justement de cultiver un anonyme, une sorte de flou autour de soi?
Je ne crois pas à.
À l'anonymat. Si.
Non, attends, je ne crois pas au côté radical, c'est-à-dire je suis sur le net, je n'y suis pas. Encore une fois, je veux que ce soit nuancé. On peut y être, mais en faisant attention, voilà. J'ai des gosses, et les gosses, au fur et à mesure, ils disent plein de trucs sur le net, et puis un jour, ils vont se rendre compte qu'ils en ont dit trop, et bien la semaine d'après, ils feront autrement. Et bien voilà, c'est comme quand un gamin il dit « Ah, j'ai envie de sauter, ben, tu vas te faire mal, et puis t'interdis à ton gosse de sauter, ben toute la... Il a envie de sauter, le gamin. Bon, il saute, il se fait mal, et ben tout seul, il se rendra compte qu'il ne faudra pas qu'il saute.
Ouais, mais s'il saute du quatrième étage, je parle par exemple d'un truc, de quelque chose d'irréparable sur le net, hein, en l'occurrence. Hein. C'était un parallèle, oui, c'était bon, pas voilà, juste pour l'humour. Mais parce qu'il peut aussi, il peut arriver ce genre de choses aussi. Prenons l'exemple.
Mais pourquoi c'est pas que sur tu peux mais convaincre non, mais des gens de faire des conneries.
Voilà. Non mais c'est pareil sur Internet ou sur. Mais justement et c'est le chat qui l'a ouais. Amené. Le problème sur Internet par rapport à la vie réelle entre guillemets, hein, même s'il n'y a pas pour moi de distinction bien tranchée, c'est le problème de la persistance des données. C'est-à-dire que on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Si quand on était dans la cour de récréation par exemple et que on insultait quelqu'un. quelqu'un. Bon, ben voilà, on insultait quelqu'un, on se mettait peut-être sur la gueule, bon, voilà. Et puis, dans les cas les plus graves, eh bien, on changeait d'école, on faisait table rase du passé. Bon, c'est quand on est tout petit, ça marche, quand on est plus grand, même dans la vie réelle, c'est plus dur. Le problème, c'est que sur Internet, eh ben, même quand on est un adolescent, eh bien, ça reste. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que bah, sur Facebook et autres, pour enlever des données, c'est la croix et la bannière.
Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis le premier à dire que confier à des boîtes privées dont leur cours de bourse dépend, donc leur valeur financière dépend...
De pas grand-chose en réalité.
Dépend de ce que nous, on accepte de leur donner. C'est-à-dire dépend des traces intimes de millions de personnes. Et que leur business model soit basé là-dessus, pour moi, c'est contre la décence ordinaire de George Orwell, justement. C'est contre la toute décence. Bon, évidemment, il y a un côté capitalistique que je pourrais dénoncer aussi, mais là, je parle vraiment de décence. C'est-à-dire de comment on arrive à vivre ensemble en ne dépassant pas certaines bornes. Donc déjà, le fait d'autoriser les boîtes privées à le faire, bon, il se trouve que le capitalisme fait qu'on ne peut pas dire non. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'elles soient régies, ces sociétés, par des règles très, très puissantes, aussi puissantes que leur modèle économique est simple, quelque part, hein, et que aussi le fait qu'on donne tout ça gratuitement, et que c'est eux qui se font des couilles en or, quelque part. Donc,
oui, mais eux rétorqueront qu'ils nous donnent un service.
Mais quel
service? Un service de contact entre personnes qui se connaissent déjà.
Bon. Facebook Play, c'est un qui vient d'être lancé, la géolocalisation.
Ouais, Facebook Play, ça marche pas, mais...
Ça sert pas à ce que les gens se contactent entre eux.
Non, ça sert à niquer Foursquare.
Non, pas Foursquare même.
Bah, Foursquare, oui, non,
ça sert à niquer tous les sites américains d'annonces classées.
Ouais,
le vrai business, c'est les petites annonces. Et ça, c'est ce qui rapporte le plus de fric dans la pub, les petites annonces.
C'est pas faux.
C'est rien, c'est trois lignes de texte et c'est super cher et ça coûte rien. Voilà. Donc, moi, en gros, effectivement, laisser des traces persistantes sur Internet. Quand je disais oui et non, ça veut dire que ces traces, elles existent, mais il faut les trouver. C'est-à-dire que c'est un magma énorme, quoi. Donc, quelque part, on est tous noyés dans la masse. Et pour que des gens puissent ressortir les infos qui vous concernent pour vous porter préjudice, il faut déployer une armada, un arsenal. Il faut que des gens, là en l'occurrence des vrais hommes, des humains, passent des jours et des jours à scanner des trucs sur votre compte, à vérifier que l'adresse IP que c'est bien la vôtre, parce que vous avez changé un jour de DHCP.
C'est connecté chez McDo.
C'est qu'à la limite, si on s'en donne les moyens, on peut le faire. C'est-à-dire que si par exemple une entreprise veut couler un salarié.
Mais c'est pour ça qu'on existe, les Big Brother. C'est pour dire qu'effectivement, que des boîtes privées gèrent ça, c'est dangereux. Parce que les boîtes privées, forcément, le jour où il y a un warrant, le jour où il y a une commission rogatoire, ou même le jour où il y a un coup de fil d'un mec bien placé dans un ministère, et ben la liste, il l'a, quoi.
Et il n'y a pas d'autorité pour faire opposition.
C'est illégal, mais le mec, il a comme la liste. Hmm. Et il te baisse derrière. Donc, après, effectivement, il ne faut pas perdre de vue que tous ceux qui passent leur temps à dire de mal à Internet pour en disant « Oui, mais c'est des terroristes, on peut discriminer les gens, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. » Oui, mais en même temps, Internet, ça permet de dénoncer tout ça. Ça permet d'y a des contre-feux. Et jamais aucun système médiatique n'a été créé avec ces contre-feux, ce potentiel. Et c'est du end to end, tu vois, c'est pas du puissant vers petit.
Est-ce qu'on vous rapproche un peu plus?
Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a effectivement des choses qui... Voilà, il faut rester nuancé.
Du filtre anti-pop, en fait. Faut vraiment se mettre très près du filtre anti-pop.
Et ils sont très sensibles, ils captent ce qu'il faut pas, et pour bien parler, il faut bien se mettre proche.
Voilà, mais c'est pas...
Non, mais c'est vrai que la surveillance dans les entreprises, ça devient de plus en plus fréquent. Là, je vois que il y a pas mal d'entreprises qui mettent en particulier des caméras de surveillance dans leur bureau et dans les open space. Ça, c'est courant, c'est pas nouveau.
Oui, mais attends, justement, tu parles d'un truc qui est intéressant, qui est peut-être un petit peu hors sujet, mais le concept de vie privée aussi, déjà à la base dans les open space, ça en avait pris un coup parce qu'avant chacun avait son bureau et le côté exactement. Hein. C'est-à-dire que en fait, on s'est aperçu que le taux de stress dans les open space était un peu plus élevé que quand chacun avait son bureau. Et quand je dis un peu plus élevé, c'est un euphémisme. Alors, si tu rajoutes des caméras de sécurité, où va-t-on? Voilà, c'était la petite parenthèse
là-dessus, c'est que vie privée dans une entreprise. Bon, la vie privée, c'est quand même un concept, assez précieux. Non, mais je veux dire un concept
personnel,
qui est presque philosophique. Ah, tu vois, c'est pas que une entreprise, c'est tout sauf la démocratie, quoi. L'entreprise, c'est de la dictature, c'est le N qui contrôle les petits, quoi. faut pas essayer d'imaginer qu'on pourra, dans l'entreprise, créer un système vertueux où les gens seront là pour s'accomplir et en plus ils auront une vie privée. Il y a la loi fondamentale en France et dans le principal pays démocratique qui fait que oui, il doit y avoir une sphère privée, même dans l'entreprise, dans l'ordinateur également. Hein. Mais il faut que vous marquiez personnel sur vos dossiers, il faut que l'employeur vous prévienne qu'il peut vous écouter votre téléphone. Je veux dire, l'entreprise, c'est tout sauf un lieu de démocratie, de débat et de comment dire, où peut y avoir un débat contradictoire. C'est arbitraire, quoi. Donc, c'est bien de se dire, ok, c'est scandaleux qu'il y ait des caméras, machin, mais il ne faut pas oublier qui on a en face, quoi. Voilà, on a quand même ces gens.
On peut imaginer que donc ce genre de surveillance, donc les caméras, les récupérations historiques, là, je suis en train de j'avais fait une liste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce genre de surveillance n'est pas efficace à long terme? C'est-à-dire que ça risque.
N'est pas efficace à long terme. Et les gens savent très bien. Pourquoi? Les caméras de surveillance, mais c'est l'exemple type. C'est l'outil qui est déployé, mais à grand renfort. Alors avec des pubs, des politiques, du lobbying,
des faits divers.
des faits divers qu'entretiennent tout ça. Des associations qui militent pour qu'il y en ait encore plus, parce que même ils disent qui c'est qui a dit ça récemment, je dis pas
ça
qui c'est.
Ça poussait les gens à moins faire de crimes parce qu'ils
savent. Non, c'est bien qu'il y ait marchand, parce que comme ça il y a moins de flics, tu vois. le problème c'est que les flics qui sont là, c'est des flics privés et c'est eux qui surveillent les images, donc oui. C'est bidon. Non, les caméras de surveillance, c'est l'exemple type de la technologie leur. Mais vraiment leur, qui est là exactement pour faire croire aux gens qui sont surveillés, donc pour qu'ils changent leur comportement, qu'ils aient une démarche, hein, qui soit de, comment dire, comme de quelqu'un qui est cobaye dans un laboratoire, tu vois. Ouais. Et ça sert évidemment à alimenter un marché économique. Ça sert à réélire les maires
qui ont installé le plus de caméras.
Ça sert pas à arrêter
le
les
caméra
gens. Ça sert pas à prévenir les crimes et les délits qui se déplacent. Et les vrais terroristes ou les vrais gens qui veulent faire des conneries dans le métro, et ben ils mettent une capuche, des lunettes et ils baissent tout le monde.
Donc, ça me rappelle un peu le débat sur le piratage quelque part.
Exactement,
en fait. C'est-à-dire que c'est presque ceux qui sont dans l'illégalité qui sont presque le moins emmerdés, parce que de toute façon, eux au moins, ils savent qu'à ce moment-là, ils sont surveillés et qu'ils sont toujours de toute façon préparés pour.
Ouais, mais même là, est-ce qu'à moyen terme, pour la réélection par exemple des élus, est-ce que c'est efficace? Parce que je ne sais pas, hein, je connais pas les sondages, mais je suis pas sûr qu'une majorité de Français soit spécialement favorable à la vidéosurveillance.
Si, mais c'est pourquoi on me pose des questions, c'est comme les sondages. Hein. C'est pour ça que quand la CNIL pose la question, comme par hasard, ils sont 79% à dire qu'ils aiment bien. Ah. Et quand on pose une question avec un peu plus de finesse, ils sont moins de 50% à dire ok. Parce que vous dites, tu poses la question derrière, mais est-ce que vous êtes pour mettre en place, en même temps que les caméras, des instances qui vérifient, qui contrôlent ce que font les flics, ce que font les surveillants avec les images? Tout le monde dit, il faut ça aussi. Mais sauf que tu dis pas aux gens, ben il y a les caméras, mais il n'y a pas ce que vous demandez à côté. Donc il n'y a pas le contre-pouvoir.
Mais ce que je veux dire par là, c'est justement si une majorité des gens ne sont pas spécialement pour, en quoi ça va favoriser la réélection des maires qui mettent en place ces vidéosurveillances?
Ça, c'est la sociologie politique. Je ne suis pas sociologue politique. Je ne pourrais pas te raconter. Je te dis simplement que c'est un discours. Ça fait partie du discours. De dire, certes, ça coûte un peu d'argent, mais au moins.
Tout le monde est protégé.
Non, mais au moins, ça inciterait certains à ne pas faire ce qu'ils veulent faire là où ils auront envie de le faire. Voilà.
Ils vont le faire à un autre endroit. Et d'une autre façon.
Certains, ça les dissuade de passer à l'acte. Mais je pense que, en plus, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que les systèmes en vigueur aujourd'hui, toutes les caméras de surveillance qui marchent aujourd'hui, elles, en fait, généralement, ce n'est même pas de la vidéo, c'est des images, c'est des photos qui sont prises toutes les 15 secondes, tu vois.
En 15 secondes, une vieille, elle tente de se faire piquer son sac trois fois.
Non, mais voilà, tu vois, c'est plus des séquences d'images. Parce que t'imagines ce que tu faut stocker derrière.
Ah bah oui,
tu imagines les fichiers.
On s'en doute un peu.
Et donc ça, c'est économiquement pas du tout rentable.
Ouais.
Tu vois. Donc ils disent, on achète le système, on achète les surveillants pour regarder les images, on achète les disques durs, mais ce qu'ils disent pas, c'est que les images qui sont stockées, c'est des JPEG, c'est du 50 kilos, et quand tu zoomes, tu reconnais personne.
C'est du 300
tu
par 200, personne. Par 240.
Il y a 30%, moi j'ai publié un truc récemment sur mon blog, je pourrais le ressortir si ça vous intéresse, parce que les chiffres, je ne sais pas, c'est une étude scientifique très sérieuse, qui a montré qu'il y a une grande proportion finalement des crimes
des délits qui pourraient être résolus grâce à l'identification de ces personnes-là, et il y a 30% ou 20 ou 30% des personnes qui ne sont pas reconnues, alors que ce sont réellement elles qui ont commis le délit.
20-30%, c'est pas
enfin, c'est pas énorme
par rapport à 80... par rapport à un système qu'on nous vante comme oui, mais ça servira à arrêter les gens. J'imagine que
quelque part
30%, mais c'est énorme d'erreurs dans un système informatique.
Oui, non mais on est d'accord que 30% d'erreurs c'est absolument énorme, mais d'un autre côté c'est vrai que bon là je vais me faire avec vocal vidéo.
Une fois que t'as les images,
donc déjà il y a les images qu'on n'a pas parce que il y avait pas de caméra à cet endroit-là, ou que la caméra était en panne, ou que c'était entre deux images, ou que voilà. Mais toujours est-il que 20 à 30%, c'est vrai que c'est colossal, mais ça veut dire qu'en face, on a 80 à 70% des personnes qui sont reconnues.
Ouais.
Donc après, non, mais c'est pour ça.
Mais elles sont reconnues aussi dans un fichier avec des témoins, avec des portraits robots, tu vois.
Pourquoi
la police, il faudrait tout d'un coup qu'elle change de mode. En plus, ils s'en foutent, les mecs, les flics, d'avoir les caméras de surveillance. Franchement, ils savent très bien qu'un
fois sur deux,
ils ne connaîtront personne. Il faut redemander les images, pour peu qu'elles soient déjà effacées. Il faut faire une demande avant que ce soit effacé et tout ça. Les flics s'inquiètent, ils ont des méthodes d'investigation, ils connaissent leur métier, ils n'ont pas besoin d'artifice et d'appeler le mec de la mairie qu'on n'a rien à branler non plus et qui s'est endormi devant son écran, quoi.
Donc pour vous, la surveillance, c'est plus un motif entre guillemets politique que...
C'est la police de la pensée. C'est pour dire aux gens, attention, vous êtes surveillés. Big Brother is watching nous, quoi. C'est pour distiller chez les gens le sentiment d'être sous contrôle. Et donc de changer leur comportement vis-à-vis de... Comme tout à l'heure, tu commençais l'émission en disant, voilà, Eric Schmidt, il a dit, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi avoir peur d'être surveillé? Ben, je dis justement, moi, la démocratie, c'est justement d'être présumé innocent. Donc si moi, je sais que je fais rien de répréhensible, pourquoi je resterais surveillé justement? Être surveillé, c'est déjà un truc qui... C'est un délit.
Ah justement, est-ce que c'est pas... Est-ce que
atteinte
c'est pas
à la vie privée, c'est un délit. Donc j'ai pas envie que parce qu'on me soupçonne de faire une connerie, qu'on commette un délit contre moi. C'est ça que je... C'est que la démocratie, l'état de droit, tout ce qu'on s'est battu, tout ce qu'aujourd'hui on se gargarise de nous sommes des pays en développement, les pays développés, nous avons des démocraties parlementaires, etc. Il y a des droits fondamentaux qui sont basiques. Et si ces droits fondamentaux, ils sont évacués sur les petites conneries, genre Adopi, les caméras de surveillance, etc. Si ça vole en éclats pour un cas... Mais c'est comme si l'État était devenu complètement hors-jeu vis-à-vis de ses propres valeurs. Et donc, effectivement, je me dis que la présomption d'innocence, qui est un des fondements de notre État de droit, ben, ça doit s'appliquer également aux personnes qui ne veulent pas être surveillées. Parce que surveiller des gens alors qu'ils n'ont rien fait, et il n'y a même pas un indice concordant qui voudrait dire qu'il a fait une connerie, eh bien oui, surveiller les gens de masse, de manière exploratoire, général et en stockant des données énormes sur les gens en disant un jour on arrêtera un terroriste, ça pour moi c'est totalitaire, ça devrait être interdit, c'est dans les textes ça l'est, mais dans les faits il y a des lois qui autorisent ce genre.
C'est pas un peu anticonstitutionnel le fait que ce soit, c'est un peu contre la présomption d'innocence.
Mais tu n'imagines pas le nombre de lois, alors même plus que j'allais dire depuis septembre 2001. Mais bien avant, il y a des lois anticonstitutionnelles qui le sont, avec en plus, bon évidemment, la loi sécurité quotidienne de novembre 2001. Là, l'attentat en septembre, la France est en train de discuter d'un texte sur la sécurité. Donc c'est Daniel Vaillant qui est Premier ministre de l'Intérieur, Jospin à Matignon. Donc en urgence, il rajoute une série d'amendements pour tenir compte des attentats du 11 septembre. La loi est votée en novembre et en décembre, un accord est passé entre les députés de gauche qui étaient dans la majorité et les députés de droite qui étaient dans l'opposition pour ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Parce qu'ils savaient très bien que la loi se ferait niquer. Et ils savaient très bien que vis-à-vis de leur électorat, vis-à-vis de l'opinion publique, après les attentats, tous les pays démocratiques devaient voter des lois comme ça pour soutenir les Américains. Donc les députés français ont accepté de passer une loi anticonstitutionnelle qui devait s'éteindre au bout de 2 ans, finalement, qui est encore en activité aujourd'hui. Hein. Donc tout ce qui devait être temporaire est maintenant pérenne. Et tout ça a commencé par, effectivement, un fait divers, évidemment sanglant, horrible, etc. Mais qui reste un fait divers, un fait diplomatique, une attaque terroriste. Et derrière, toutes les lois ont été rabotées, sabotées, contre l'état de droit. Et donc, effectivement, bah, d'ici, on est capable de le faire aujourd'hui, on pourra le faire demain, et puis encore après-demain. Quoi.
Alors, j'ai plein de réactions dans le chat, mais allez, voilà, si tu veux, je...
Bah, vas-y, je te laisse faire.
Alors, il y en a des plus croustillantes que d'autres. Quelque chose à voir. Ah, il y a plein de trucs à voir. Par contre, c'est des verres. Ça peut délier les langues. Alors, il y en a certains qui nient le fait que être surveillé. Attends, j'adore. Je galère. Alors, j'ai Lionel M qui dit. Oh, j'en ai marre de ce chat qui se barre. C'est vachement pratique pour le relire.
Alors, Lionel M dit que vous cédez trop à la paranoïa, si je ne me trompe pas.
Ouais, que apparemment être surveillé dans un lieu public, ça serait pas spécialement un délit. Oui, c'est vrai que d'un point de vue purement technique, c'est pas un délit, mais vous l'avez dit vous-même. Par contre,
maintenir des traces de personnes, de déplacements, navigo, il y a des traces.